Pop-opien et tous les autres aussi, bonjour. Il est fréquent que nous fassions ici état de notre vif intérêt pour tout ce qui touche à l'Angleterre, sa musique, sa culture, son esprit, son excentricité, son goût des jardins, que sais-je encore. À l'exception des haggis, ces saucisses de panse de brebis farcies, de Nigel Farage et de l'infernal Marmite, cette espèce de graisse de vidange dont nos voisins adorent tartiner leur toast, et peut-être aussi de cette fascination étrange pour les moindres faits et gestes d'une famille royale dispendieuse et à l'utilité relative pour un républicain lambda, oui, on peut le dire, on aime presque tout chez nos amis britons. Et on a souvent tendance à oublier que la réciproque peut s'avérer tout aussi vraie. J'en veux pour preuve notre invité, Posy Simmons, qui n'a jamais caché sa francophilie, au point d'imaginer une suite à notre Emma Bovary nationale en l'anglicisant pour en faire une Gemma Bovary. Un peu comme si une de nos gloires littéraires s'était emparée d'Oliver Twist pour en faire un Oliver French Cancan. Et c'est une heureuse nouvelle qu'un esprit aussi fin et pénétrant que celui de Miss Simmons puisse être considéré comme notre allié plutôt que notre ennemi, comme le voulut pendant si longtemps une rivalité artificielle entre nos deux pays alimentée par de dérisoires incidents de parcours tels que Jeanne d'Arc, Napoléon et autres Waterloo. Non, Brexit ou pas, l'heure est venue de resserrer nos liens, de rendre encore plus cordiale l'entente entre nos peuples. Et je me réjouis donc d'accueillir aujourd'hui celle qui résume si bien à elle seule toutes ses qualités. Dieu sauve la reine, si ça l'amuse, nous, on a Posy Simmons.
France Inter. Pop-pop-pop. Antoine de Caunes.
Bonjour Posy Simmons.
Bonjour.
Alors j'ai dit Simmons ou Simons?
Simmons.
Simmons, ok. À mes côtés, Charline Roux. Bonjour Charline.
Hello Antoine.
Dites-moi, la robe en sky, là, c'est un hommage à la culture britannique ou Spice Girls?
Les deux, je suis Fatty Spice.
Ah, d'accord. Au menu également de Pop Pop Pop, un nouvel épisode des On ne dit pas de Loïc Prigent.
On ne dit pas Rossi de Palma a un sacré nez. On dit Rossi de Palma, c'est avant tout un visage au profil hors norme, libéré de tout canon.
Aujourd'hui, il nous parlera de BD à sa manière. Mais avant sa Posy Simmons, ici, il existe une question encore plus violente que ça. Et cette question, c'est... Pour vous, Posy Simmons, c'est quoi la pop culture ? Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses positanesques, simonciennes, anglicotes ou même Spice Girlisantes. Et parmi mes préférées, il y a celle de votre concitoyen, Paul Smith.
La pop culture, ce sont des nouvelles idées. L'enthousiasme, les choses qui sont différentes, les choses qu'on n'a pas entendues auparavant. Et aussi, ça part de peinture aussi, pas seulement de la musique. Andy Warhol, par exemple, qui apparaît tout soudain dans les années 60 et beaucoup d'autres aussi. Donc oui, c'est la nouveauté.
Voilà pour Paul Smith et pour vous, Posy Simmons.
C'est la nouveauté, mais c'est aussi ma jeunesse, le pop music et pop art. Les trucs de Andy Warhol, les trucs de David Hockney, la peinture, je veux dire. Et la musique, je me rappelle que j'ai acheté un transistor, un radio transistor, quand j'avais, 18 ans. Et puis j'ai commencé à écouter, avant les Beatles, les Beatles et les Stones, mais il y avait des choses de pop-pop-pop-pop-pop-pop. Mais c'était assez légère, parce qu'avant ça, il y avait le rock, qui était plutôt un peu...
Masculin.
Oui.
Très bien, c'est une définition qui me convient. Charline ?
Parfaitement.
On valide ?
Oui.
Ok, alors ça nous permet de continuer. Posy Simmons, la pop, la culture et la pop culture, on va en parler dans la suite de Pop Pop Pop, juste après un morceau de la jeune anglaise Little Sims.
Selfish.
very big ego. Embedded in me, that's the heritage ego. And them, hey, they ain't messing with the steez though. And now I'm there, can't entertain no bummy boy. Need my boy fresh in a tuxedo. Me and my new cage steady blowing. I'm a woman who can teach you a little something about class. Diamonds will forever be a girl's best friend. Everything's imperative for the way I live. I know it's material but not irrelevant. All this here is worked for, not inherited. Told myself I break my fellas off but never did. Self-loving, need more self-loving. That's how it goes, they wanna know you when you're buzzing. The first things first, number one, I'm priority. Call it what you want, doesn't faze, doesn't bother me, honestly.
I can't sleep the night.
And hate can never be friends. Don't rush everything in this divine turn. I peeped, you couldn't handle a woman in my caliber. Had to let you mature like some fine wine. Yeah, no validation, no applause. You don't have to prove you got it when you know it's yours. I don't wanna feel disloyal for wanting to do me. Then you act brand new and I know the cause. Wait, call it what you like. Till now I'd never been the selfish type. Till now I'd never told nobody no. Don't get it twisted, this it didn't happen overnight. Still if your life is amazing, what you got to fear? Can't be concerned about what they're saying up there. I make it clear, don't be in and out about what you hear. They say I always get what I want and it isn't fair, but life isn't fair, go.
I can't sleep at night, I don't wanna fight. My best friend is I, I'm so selfish. Guess I'm in denial.
La jeune rappeuse anglaise Little Sims avec ce morceau Selfish. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui en compagnie d'une invitée pour qui Paris rime avec glamour, musée et odeur d'urine. Mais qui est-elle ? Réponse avec son pop portrait. Alors, votre pop portrait, ben, c'est votre portrait, Posy, mais à base de... Et c'est signé Charline Rinro.
Aujourd'hui, une invitée qui m'a fait réaliser que, gauche, que n'aurais-je fait si en lieu et place de 10 doigts agiles, je n'avais été dotée de palmes, slash moufles, slash gants de boxe. Car pour tout vous dire, cher Posy Simmons, nous avons beaucoup de points communs et pourtant une destinée si différente. À vous la gloire, à moi le purgatoire. Tout comme vous, très tôt, je suis tombée dans les comics que je m'amusais à reproduire pour le plus grand plaisir de personne. C'est-à-dire que quand Batman ressemble à un chat tout plat, ça ferme quelques perspectives en termes de combat contre le crime. En plus, je dépassais en coloriant, donc du coup, ça ne marchait pas. Bref, tout comme vous, j'ai été ensuite passionnée de littérature grâce à une prof de français géniale. Tout comme vous, je suis allée à la Sorbonne. Mais en fait, comme mon studio d'étudiante était très très près des amphis, je croyais toujours avoir un peu de temps pour un épisode de Friends supplémentaire avant d'y aller, alors qu'en fait non. Tout comme vous, j'ai eu une révélation en lisant Madame Bovary, révélation que vous avez mise à profit en dessinant votre version sous le titre Gemma Bovary dans Le Guardian, puis en roman graphique, révélation que j'ai mise à profit en décidant, telle l'héroïne de Flaubert, de m'ennuyer à crever. Vous êtes ensuite intéressée à Thomas Hardy, qui vous a inspiré Tamara Drew, moi à Tom Hardy, qui m'a inspiré des idées de scénario que je n'oserais jamais divulguer. Bref, non, vraiment, Posy, j'aime beaucoup votre vie.
Mmh. Ah, merci bien, c'est...
Je vous en prie.
C'est super.
Posy, il manque quand même quelque chose, parce que je sais que vous imitez, m'a-t-on dit, à la perfection, Elvis Presley.
Quand j'étais à l'école, pour les pièces à l'école, surtout les pièces pour la nativité, Un an, j'étais Marie, mais l'an après, j'étais le bruiteur. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, mais j'étais le bruiteur. Donc, j'étais la porte, l'écurie, j'étais le mouton, j'étais les poules, il y avait des poules. Et j'étais le bébé Jésus, j'étais la bœuf.
Et Elvis Presley ?
Il n'était pas là, je crois.
Il n'était pas dans la ce
jour-là. Oui,
donc, c'est une légende, vous n'imitez pas Elvis Presley ?
C'est difficile pour moi.
Et la reine d'Angleterre?
I can do that a bit. Et les poules?
Les poules, allez-y. Le mouton? Ça me plaît beaucoup. Est-ce que vous pouvez mélanger les poules, le mouton et la reine d'Angleterre?
C'est impossible.
C'est impossible de mélanger un mouton avec une reine d'Angleterre.
Non, à cette heure-ci, plus tard peut-être.
Après un gin ou deux peut-être.
Oui.
Ok, enfin je parle pour la reine bien sûr. Alors, reine Elisabeth, passons à votre pop liste royale. Hop. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série. Pour le livre, votre choix s'est porté sur l'aventure de Mr. Todd de Beatrix Potter. Charline, vous qui m'avez posé tant de lapins, rappelez-nous cette histoire de renard, si ma mémoire est bonne.
Oui, Mr. Todd est un renard et Ernest Blaireau occupe parfois une de ses résidences sans y avoir été invité. Il mange occasionnellement du pâté de la proue. Un jour, il enlève les bébés de Jeannot Lapin et les emporte dans une maison de Mr. Todd. Jeannot et Pierre Lapin, sur le point de délivrer les petits, voient avec horreur arriver le renard.
Posy Simmons, auriez-vous la gentillesse de nous en lire un extrait, s'il vous plaît?
I've made many books about well-behaved people. Now, for a change, I'm going to make a story about two disagreeable people called Tommy Brock and Mr. Todd. Nobody could call Mr. Todd nice. The rabbits couldn't bear him. They could smell him half a mile off. He was of a wandering habit, and he had foxy whiskers. They never knew where he would be next. One day he was living in a stick house in the coppice, causing terror to the family of old Mr. Benjamin Bouncer. And the next day he moved into a pollard willow near the lake, frightening the wild ducks and the water rats.
Mm-hmm. Pourquoi cette histoire de Blaireau vous touche-t-elle tant, Posy Simmons?
Parce que c'était plus proche de mon expérience comme enfant, parce que c'était une histoire noire qui m'a beaucoup effrayée à 5 ans. À cette époque, il y avait des contes de fées qui étaient effrayants, avec les sorcières, les pommes empoisonnées, les géants mangeurs d'hommes. Mmh. J'habitais à la campagne, donc j'ai vu les blaireaux et les renards. Et pour moi, cette histoire d'enlèvement, de crédulité, de trahison, tout ça, c'était effrayant. Et quand le blaireau a enlevé les petits lapins, il les a pris à la maison très sinistre du renard, du Mr. Todd. Il a mis les lapins dans un casserole et pour le faire cuire. Mais avant la cuisson, il y avait un combat entre le renard et le blaireau qui s'était terrible, pendant que les petits lapins se sont sauvés. Mais la bataille, le combat a continué pour toujours.
D'accord. Vous pouvez me rappeler le son du blaireau?
Non, c'est un... Parce qu'il...
C'est pas mal.
Bon, c'est pas le son, le renard, il fait comment, lui?
Non.
Non plus?
Non, non plus. Non, non.
Ah, c'est que les poules et les moutons, en fait.
Oui.
Et la reine d'Angleterre.
Oui.
Ok, d'accord.
Oui,
très bien.
D'accord.
Très bien. Posy Simmons, pour le film, vous choisissez Il Gattopardi, le guépard, évidemment, de Luchino Visconti. Charline, je sais, et vous l'avez encore rappelé il y a quelques instants, que rien n'approche Tom Hardy à vos yeux chez les acteurs de sexe masculin. Pourtant, vous conviendrez, j'espère, que Burt Lancaster, c'est pas de la merde.
Oui. Je conviendrai mollement. En 1860, la Sicile est submergée par les bouleversements de Garibaldi et ses chemises rouges. Le prince Salina, Burt Lancaster, se rend avec toute sa famille dans sa résidence de Donna Fogata. Prévoyant le déclin de l'aristocratie, il accepte de marier son neveu, Tancred, Alain Delon, vient nous servir à boire, à la fille du maire de la ville. Oh bah oui, il fallait.
Pour la première fois, Un film sensationnel, fait dans un festival, l'unanimité du jury et des critiques du monde entier. Le Guépard. Luchino Visconti a réalisé un film d'une incroyable beauté, roulant un fleuve d'images inoubliables, vivant de sa propre vie, et pourtant étonnamment fidèle à l'œuvre dont il a surgi.
Tout le charme de l'Italie viscontienne dans cette bande-annonce en VF. Pourquoi avoir choisi ce film-là, précisément?
J'avais peut-être 18 ans que je l'ai vu, et pour moi c'était la première fois que j'ai pensé qu'est-ce que c'est de vieillir, parce que c'est un méditation très émouvante sur l'âge, sur la mortalité et les regret pour une mode de vie en déclin. Mais il a fait un très grand film d'un très grand livre. Et ça a duré plus que 200 minutes, je crois. La scène de bal a duré 45 minutes. Et c'était pour moi, quelque chose d'ailleurs, Alain Delon, il était très beau. Et Burt Lancaster, formidable.
Ouais, ouais, oui. Alain Delon s'est un peu abîmé avec le temps. Mais Burt Lancaster, non?
Oui.
Oui, bon, ok, c'est bon, pas Tom Hardy. Alors, pour la série, vous avez choisi Fawlty Towers, l'hôtel en folie pour en VF, une série de John Cleese. Et Charline, là c'est à l'anglophile que je m'adresse. Comment expliquez-vous que les héros de séries anglaises, très souvent, je pense à Mr Bean, à Ricky Gervais, à Rick Mayall, à John Cleese dans Fawlty Towers, soient si souvent d'odieux personnages?
Parce que c'est irrésistible, Antoine. Cet hôtel est donc tenu par Basil Fawlty, qui rêve de faire de son établissement un endroit haut de gamme, ce qui le rend particulièrement odieux avec les clients. Dans sa tâche, il est épaulé par sa femme Sybille, qui passe son temps au téléphone, par Manuel, l'homme à tout faire, et par Polly, la femme de chambre, la seule personne sensée dans cet asile.
Posy Simmons, c'est cet hôtel en folie qui vous plaît tant, ou bien c'est John Cleese, ou le mélange des deux?
Mélange des deux. C'est un portrait des années 70 en Angleterre, où il y avait des petits hôtels où qui servent la nourriture était complètement dégoûtant. Et quelqu'un, John Cleese, Basil Fawlty, il détestait ses clients. Et il est plein de colère, il est plein de colère refoulée. Il a plein de politesse avec les dents serrées. Je l'aime beaucoup. Mais il avait vraiment peur de sa femme, Sybil. Et quand il s'appelle Basil, et quand Sybil dit « Basil !» Et il a vraiment peur, il se cache.
Très bien, mais ça me plaît beaucoup, Fawlty Towers. Oui. Ouais, et puis on en parle beaucoup trop peu de Fawlty Towers dans cette émission. Posy Simmons, terminons cette pop list avec votre chanson, et cette chanson, c'est celle-ci. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, the life would still go on, believe me. Show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be God Only Knows, les Beach Boys, une chanson considérée par Paul McCartney lui-même comme étant la plus belle chanson jamais écrite.
Oui, j'ai entendu parler de ça. Je crois que c'est une chanson qui ne s'est pas forcément adressée à Dieu. Mais c'est proclamation, et aussi c'est une appel. Pour moi, c'est tous mes choix sont un peu surannés. C'est parce que en ce moment, je fais des recherches des années 50, des années 60, des années 70. Donc les Beach Boys, pour moi, c'était le soundtrack de ma jeunesse.
Mais c'est exactement la question qu'on vous posait. C'est une pierre de rosette des Beach Boys. Ça n'a rien de suranné.
Oui, ah ouais, c'est pas suranné.
Ah non, pas du tout, non. Bon, je résume The Tale of Mr. Toad, Visconti, Fawlty Towers et The Beach Boys. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça nous donne ça.
Pour la première fois, un film sensationnel.
Nobody could call Mr. Toad nice.
L'unanimité du jury et des critiques du monde entier. Roulant un fleuve d'images inoubliables, vivant de sa propre vie.
He was of a wandering habit and he had foxy whiskers.
Vous y retrouvez dans ce petit pudding ?
Oui, j'adorais ce pudding.
Il est tout à fait digeste.
Ah oui, peut-être c'est indigestible, mais c'est un goût absolument piquant.
Parfait. Posy Simmons, ce pop-up spécial BD continue juste après un morceau de la française qui excite le plus les Anglais en ce moment. Elle s'appelle Chris.
Même si personne ne se laisse aimer, je désire ce qui tremble, qu'aucune journée ne se ressemble. Je dis ça pour que tu comprennes. J'attendrai pas que la tendresse vienne, je l'ai mouché jusqu'au sang. Ma timidité d'adolescent.
Pop-up sur France Inter. Nous sommes toujours en compagnie de la superstar anglaise du roman graphique, Posy Simmons, venue nous présenter Cassandra Dark, son petit dernier, sorti la semaine dernière aux éditions de Noël Graphique. Alors, j'évoquais il y a quelques instants votre francophilie, Posy, mais avant d'aller plus loin, pourquoi nous aimez-vous ?
Why do I like you ?
Moi, la France. Hein,
oui,
moi,
la France.
Plus générale, quoi.
Ah oui, il y a toujours un liste chez les Anglais qui vont en France. Ils aiment la nourriture, les vins, le paysage, les routes et les Français.
Et les Français ?
Oui.
Ah oui ?
Oui.
D'accord. Okay.
Parce qu'il y a la mode, les chaussures,
Et la littérature, bien sûr.
La littérature, les beaux-arts, oui.
Ça fait autant...
le jeu de paume.
Après Flaubert et Hardy, cette fois c'est un conte de Dickens qui vous a inspiré pour votre nouvelle héroïne, un chant de Noël. Vous avez besoin d'une base classique pour laisser ensuite votre esprit vagabonder.
C'est pas nécessaire, mais je crois une partie du travail s'est déjà fait. Merci au Flaubert, monsieur Thomas Hardy. Mais je crois aussi que c'est une terre fertile pour ensuite faire des histoires plus contemporaines. Mm-hmm. Oui. Chez Dickens, je suis un grand admirateur de lui. Mm-hmm. Je n'aime pas tellement son sentimentalité.
Son sentimentalisme, oui.
Mais j'aime bien sa moralisme. J'ai emprunté quelque chose de la conte de Noël, mais l'histoire, c'est à moi.
Si vous aviez choisi Flaubert et Thomas Hardy dans les ouvrages précédents, c'est parce que ce sont deux écrivains qui s'intéressent au point de vue de la femme. C'est toujours primordial pour vous ?
Oui, je crois. Moi, je suis femme.
Ah, vous êtes une femme ?
Je suis Elvis. Non, ça m'intéresse toujours avec les romans du 19e, le contraste entre les femmes de cette époque et les femmes d'aujourd'hui. Mmh. Que les femmes de 19e, il fallait qu'elles gardent soucieusement leur réputation. Mmh. Et c'est pas le cas. Oh oui, c'est le cas, mais c'est pas très strict maintenant. Mais je crois. Aussi, rien n'est changé, parce que je crois que pour les femmes, c'est mieux, c'est meilleur, ça va mieux, il y a des choses, mais ça va mieux. Mm-hmm. C'est la même, ça reste la même chose, et c'est pire, parce que c'est toujours on the Facebook and everywhere, you know, there's all this trolling of young women.
Beaucoup de trolling contre les femmes, oui. De misogynie sur les réseaux sociaux.
Oui, and young women feel when they're 16 that they have to have Botox.
Et dès l'âge de 16 ans, les jeunes filles, qui ont encore des gamines, elles se disent oh, il me faut du Botox, des injections, refaire les seins.
Vous confirmez, Charline, parce que vous êtes
j'ai plus 16 ans, j'ai plus 16 ans depuis longtemps.
Non,
mais oui,
de
c'est
botox,
vrai.
En revanche. Mmh.
Oui, beaucoup de botox. Consommation abusive. Existe-t-il un héros masculin de la littérature qui pourrait vous intéresser pour un roman graphique?
Je crois que c'est Samuel Pepys. Il était de 17e. Mmh. Il aimait bien les femmes. Il était gourmand. Il était très intelligent. Et ses journaux étaient très très bien.
Je suis nul pour vivre avec des gens, dites-vous. Je n'ai d'intérêt ni pour la vie domestique, ni pour les enfants. Je suis solitaire, vieille fille dans l'âme, responsable devant personne, à charge de personne. Voilà, ça c'est Cassandra Dark, votre personnage principal. Y a-t-il une forme de jouissance à écrire sur un personnage avare, aigri, obèse, quand semble-t-il, on est exactement l'inverse?
Ça me plaisait d'avoir une héroïne qui était vraiment misanthropique.
Misanthrope, oui.
Misanthrope. Ouais. Elle est grosse, elle est vieille, elle est riche, elle est méchante.
Elle est méchante, elle est très méchante.
Oui. Elle est comme Scrooge, mais Scrooge, il est mince, il garde son argent. Par contre, Cassandra, elle mène une vie luxueuse. Mm-hmm. C'est facile pour elle de vivre sans travailler et sans savoir les soucis des autres.
Mm-hmm. Cassandra Dark est donc une septuagénaire londonienne, une ancienne marchande d'art qui a perdu sa fortune à la suite de malversations. Elle se retrouve impliquée malgré elle dans une affaire de meurtre et de trafic d'êtres humains. C'est à travers le monde de l'art que vous brossez ce portrait acide de la vie londonienne. C'est un milieu qui vous amuse, qui vous fascine?
Oui, je connais des peintres. Je suis allée aux exhibitions aux exhibitions.
Oui, parce que les exhibitions,
oui.
Ça existe aussi. Mais...
Et pour moi, c'est aussi parce que il y a des gens qui achètent les œuvres d'art purement pour spéculer. Mm-hmm. Et je crois que c'est ça que Cassandra Duck mm-hmm. n'aime pas. Elle a un peu de morality, oui. Même si
elle aime l'art. Elle aime l'art.
Oui. Et les gens ses clients qui sont comme ça, elle croit qu'ils méritent
d'être escroqués.
Et l'histoire de Cassandra Dark vous est aussi venue en vous baladant dans les quartiers huppés londoniens. En quoi ces quartiers, parfois presque vides, ont été une quelconque inspiration?
Moi, je marchais très souvent à Londres et j'aime bien. Et je marche dans les quartiers riches, les quartiers pas très riches et les quartiers pauvres. Je suis conscient qu'il y a de plus en plus, pendant les années, peut-être 10 ans, il y a une fracture sociale. On voit que les riches sont devenus beaucoup plus riches. On voit des voitures absolument énormes avec des chauffeurs. Il y a des marques de richesse absolument partout. Mm-hmm. Et par contre, il y a plus de mendiants, plus de sans-abri, plus de banques alimentaires aux supermarchés. Mm-hmm. Mm-hmm. Et pour moi, ça m'a donné à l'esprit les romans de Charles Dickens, ouais. parce que je vois qu'il y a, il y a la même inégalité maintenant. Mmh.
La légende prétend que vous avez une méthode de travail très particulière, que vous vous écrivez face à un miroir pour pouvoir faire des visages, des grimaces, afin de mieux les retranscrire. Alors, je sais, nous sommes à la radio, mais pourriez-vous me montrer ce que ça donne ?
Maintenant, parce que je suis un peu inquiète, je vais...
Ah oui, je vous sens inquiète, là.
Oui.
Oui. Oui, enfin, je décris quand même Pussy Simmons, c'est donc très inquiète d'un seul coup en me regardant. Oui. Vous inquiétez pas, vous êtes en bonne main.
On a aussi entendu dire qu'un des coussins de votre maison s'était fait maltraiter lors de l'écriture de ce roman graphique. Vous testez toujours ce que vous écrivez sur dans votre environnement proche.
Ah oui, mais coussins. Ah oui, c'était pour la morte d'un chien. C'était mm-hmm. le carlin qui appartient à Cassandra. Et un de ces méchants l'ont donné le canard un bon coup de pied dans les fesses. Oh non, c'était à la tête. Et pour faire ça, pour dessiner que c'est un convaincant, j'ai pris un coussin et j'ai donné des coups de pied à ce coussin. Et mon mari, il a pris des photos.
Vous avez découvert la pop culture Pussy Simmons en récupérant des Batman et des Superman, parce qu'il y avait une base américaine près de votre village quand vous étiez enfant. Aujourd'hui, vous dessinez systématiquement des anti-héros. Est-ce que vous préférez le côté obscur de la force ?
Oui, je crois que c'est plus intéressant, les transgressions. Mmh. Je crois une auréole, c'est facile à dessiner, mais les péchés sont plus intéressants.
Jean-Luc Fromental, votre directeur de collection, dit que vous arrivez à raconter toute la société, alors que vous venez de la bonne société, et ce qui est plutôt rare à ses yeux, car souvent en Angleterre, les créateurs ont tendance à s'adresser à ceux qui partagent la même classe sociale. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue? Et si oui, comment faites-vous pour échapper à la règle?
Parce que ça m'intéresse tous les gens. J'habite Londres, donc je vois tous les jours des gens from every background.
Des gens de tous horizons,
oui.
De toute
classe
sociale.
Je sais pas conduire, donc je vais à pied. Je suis dans le bus tout le temps. Heureusement, les gens hurlent sur leur portable et c'est très bien pour moi.
Est-ce que vous pourriez, par exemple, écrire les aventures d'une femme, fille de vicaire, accédant au poste de secrétaire d'État à l'intérieur, puis à la fonction de première ministre?
Ah oui, vous voulez dire Theresa May,
elle-même,
our beloved Prime Minister.
Notre première ministre, chérie.
C'était une conte Assez tragique, je crois. J'espère qu'il y, a, il y aura une arc-en-ciel bientôt.
Une fin heureuse, peut-être.
Une fin heureuse, j'espère. Mais...
C'est mal barré. Bon, impossible de ne pas évoquer le Brexit avec vous. Évidemment, un Brexit que vous comparez à ça.
Debout les campeurs et haut les cœurs. Oubliez pas vos bottes. Parce
un
que ça
jour sans fin, le film dans lequel Bill Murray revit sans cesse la même journée.
Absolument. C'était comme ça depuis 2 ans. Ou presque trois ans.
Est-ce que vous arrivez à suivre vous-même?
Non.
Non plus?
Non plus. Aïe. Absolument. On est triste. Mm-hmm. Oui.
Bien posé, Simmons, est-ce que vous savez faire ça? Et je sais que vous savez le faire, ça.
Quel talent de...
Ça
de...
vous embouche un coin, ouais, non?
Complètement, ah, je suis ouais. admirative.
Prenez-en de la graine, enfin, Charline. Bon, c'est juste pour lancer les pop news.
Après Jack Nicholson chez Burton et Heath Ledger chez Nolan, c'est au tour de Joaquin Phoenix de se glisser dans la peau irritée de l'ennemi juré de Batman dans une histoire originale inédite et ce devant la caméra de Todd Phillips à qui on doit Very Bad Trip et War Dogs. Phoenix y est Arthur Fleck, un homme sans concession, méprisé par la société et apparemment perturbé par sa maman.
My mother always tells me to smile and put on a happy face. She told me I had a purpose. To bring laughter and joy to the world.
Joker, c'est le titre et ce sera le 9 octobre au cinéma et on arrête de raconter n'importe quoi à nos enfants d'ici là.
J-5 avant la saison 8 de Game of Thrones, dont le premier épisode sera diffusé dans la nuit de dimanche à lundi en France sur OCS. Et du coup, la promo bat son plein, y compris dans le célèbre Saturday Night Live, dont le présentateur était celui qui ne sait rien, soit Jon Snow, soit Kit Harington. Pour annoncer sa venue, un spot qui avait échappé à notre sagacité, dans lequel Leslie Jones le soumettait à ses fantasmes. Mais devant son absence de coopération, elle lui fait revivre l'infâme marche de la honte subie dans la série par Cersei.
This isn't even Shane.
Those donuts.
I love donuts, John Snow.
My name's Kit.
No, it's not. Not today it ain't. Shane.
Ooh. When am I meeting Lorne?
Soon. Soon, John Snow. Shane. Shane. Shane.
Kit Harington on SNL this week. John Snow.
Game of Thrones, saison 8, ce sera donc dans la nuit de dimanche à lundi. Et pour vous accompagner dans cette insoutenable attente, France Inter vous propose une nuit spéciale menée par Fred Sigrist et une série de podcasts concoctés par... Comment s'appelle-t-elle déjà ?
C'est moi, Antoine.
Oui, bien sûr, par elle.
Un nouveau clip pour Blood Orange, alias le génial Devonta Hines, accompagnant l'un des titres de Negro Swan, 6e album de Dev Hines, 4e en tant que Blood Orange. Cette vidéo, c'est celle de Hope. On y voit Asap Rocky, Tyler, the Creator, Empress of, Didi et Taishi.
Is this the way that you bring hope when you come around? Yeah, I still smile when you come around. Yeah, bring hope when you come around.
Et la vraie bonne nouvelle, outre ce très chouette clip, c'est que Blood Orange sera en concert le 15 juillet à Paris, à l'Élysée-Montmartre.
France Inter. On peut pas ? Antoine Decaune.
Yes, it's me.
Kit Harington.
Mathilde Amet.
Ah, mince, je ne l'avais pas du tout. Elle est bilingue ?
Mais évidemment qu'elle est bilingue.
Ah bon, je ne savais pas.
Bon, merci Charline. Posy Simmons, avant de continuer à parler de BD avec Loïc Prigent, on écoute un autre anglais qui sera lui aussi dans Pop 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 cette semaine, Pete Doherty.
Mother's old green scarf with your famous auntie Arthur's trousers on. You were slapped by that slapper. Now we all laugh. She loved the loudest song in 93. Could charm the bee's knees off the beat. Keeping them dancing hand in hand. Yeah, it was all the boys together. Girls together. She's the last one.
and a tip from the tat, and Winston's from a Enoch. It's fine, daylight, coming out, coming alive. Around the snooker table, you dance the fruity tooty. She almost built a lager, toasting girls of great beauty.
Dirty, The Last of the English Roses. Vous écoutez Pop à Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon. Et nous sommes. Oh là, il était pas bien.
Ouais.
De façon. Voilà.
Mieux.
Nous sommes toujours en compagnie de Posy Simmons et vient de nous rejoindre celui qui a répondu. Posy Simmons ? Mais c'est mon idole ! Quand nous lui avons proposé de venir dans l'émission. Bonjour Loïc Prigent !
Oui, trop content d'être là !
C'est vrai ?
Bah ouais, grave ! Et,
bah dites bonjour à votre idole, enfin !
Bonjour mon idole !
Bonjour !
Il est tout rouge !
Oui, presque.
Ouais, tout ému.
Comme le micro.
Bah oui, c'est rouge que le micro. Bon, alors aujourd'hui, on va parler de BD, donc.
Bah forcément, parce que du coup, j'en ai profité pour lire la presse française spécialisée en bande dessinée, qui parlait beaucoup de vous d'ailleurs. Et j'ai découvert que le nom même de roman graphique est un piège sémantique où toute esquisse de définition est certaine de s'exposer à une réfutation équivalente. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on écrit sur la BD de façon super sérieuse.
Bah oui.
Et du coup, qui dit sérieux dit alambic des mots.
Ouais.
Voilà, donc on ne dit plus gag, on dit saillie satirique.
Ouais.
On ne dit pas vieux dessinateur, mais pionnier polygraphe. On ne dit pas jeune dessinateur bordélique. On dit trublion du 9e art qui bouscule les canons narratifs contemporains.
Bien, c'est attendez, mieux. Ça sort d'où encore c'est tout
mieux.
Ça
bah, une grosse,
toujours le...
Un gros magazine de bande dessinée.
Ah oui, ouais, dans un magazine de bande dessinée.
Ah oui, j'ai acheté, j'étais une maçon de journaux, c'était dans libre, en vente libre. Alors, et on ne dit plus une BD avec des gros nez. Avant, on disait ça, une BD avec des nez sont gros. Ouais. Non, on dit un micro-mélodrame attachant, peuplé de personnages peu subtils, typiques de l'école de Bruxelles. Alors on ne dit pas « il y a un Mickey », on dit « l'auteur démiurgique inscrit une prosopopée animale qui met absolument tout le monde d'accord ». On ne dit pas « il y a un Obélix et des Gaulois », on dit « des monstres rabelaisiens tissent la fiction graphique sans revisiter les archétypes ».
Joli.
On ne dit pas « une BD d'aventure », on dit, alors accrochez-vous, hein, « une livraison feuilletonnante, récit de régénération via le motif de l'errance ».
Non.
C'est plus long quand on va l'acheter en boutique, en revanche.
Ben, oui.
C'est toujours le même auteur ou
ah, ben, c'était dans tout lui, j'ai feuilleté, quoi, on va dire.
Ah oui,
j'ai feuilleté. Okay. Ça se passe dans une forêt, une fable écologique inspirée par Miyazaki. Bah ben, oui. Ou alors une BD rigolote. Non, c'est trop simple. On dit, dès la première planche, le contraste comique devient irrésistible, transformant cet album en boîte à gags acidulée qu'on gobe comme des bonbons, toujours prêt à mettre la main dans le bocal de cette aventure loufoque et décapante.
Moi, ouais, ça me fait envie.
Mmh. Bah oui.
Ah, oui.
C'est pipi caca, mais c'est joli en même temps.
Mmh.
Non,
oui,
on peut pas
alors...
écrire ça. Donc on écrit une alchimie formelle miraculeuse, à partir de dialogues fantaisistes faits en bave de crapaud et d'une quintessence de mauvais goût explosif.
Très bien.
Moi, j'ai bien aimé. Et c'est bien dessiné, mais il ne se passe rien. Dans cet album, la disproportion entre le pouvoir du dessin et l'insignifiance des enjeux est maximale. Et aussi, pour dire que la BD est vraiment, vraiment chiante, on dit un recueil de strips extraordinairement cohérent, pérégrination hypnotique à travers des espaces morts.
Oh.
ça m'a donné envie de la lire, celle-là. Et une BD criarde mais pleine de suspense, un tourbillon halluciné et pop, où chaque page, comme les trilles d'une flûte, est prétexte à la pirouette graphique, mais le séquençage impeccable de la partition maintient le fil de la démonstration.
Magnifique.
C'est merveilleux,
non ?
Qu'est-ce qu'on appelle un gros pif ?
Un gros pif, c'est un gros nez.
Oui, je comprends, mais dans cette...
Ils disent que c'est typique de l'école, un trait typique de l'école de Bruxelles.
Ah, c'est merveilleux.
Est-ce que vous-même, Posy Simmons, vous êtes surprise parfois des commentaires qu'on fait sur votre travail, de ce qu'écrivent les gens ?
Oui, en Angleterre, il dit « What else do you do ?»
Que faites-vous d'autre, à part la BD ?
Who thinks of your ideas ?
Et qui est-ce qui vous trouve des idées ?
Can you draw properly if you want to ?
Est-ce que si vous faites un effort, vous arrivez à faire un dessin propre ?
And what else do you do ?
Et que faites-vous d'autre dans
D'ailleurs,
la vie ?
D'ailleurs, oui. Que faites-vous comme vrai métier ?
What's my real job ?
Oh, pardon, excusez-moi. Merci Loïc. Chers amis, nous approchons de la fin de l'émission. Il est l'heure pour moi de descendre à la cave pour chercher le dernier vinyle de cette émission. Allez, j'y vais. Mais qu'est-ce que c'est que cette ambiance-là ? Mais qui sont ces gens ? Henri, mon cochon, mais t'es là, toi ? Qu'est-ce que tu fais dans ce fauteuil en velours, Henri ? Oh, tu m'entends ? Et depuis quand tu lis le Guardian ? Quoi ? Tu bois du thé, toi ? Bon, après tout, c'est le tea time, hein, tu as raison. Bon, allez, assez discuté. Merci pour les scones, Henri, mais je suis venu chercher un vinyle. Ah tiens, je sais. Elvis Presley, c'est pour Posy Simmons.
We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word? In your eyes, but here we go again, asking where I've been. You can't see the tears are real, I'm crying. We can't go on together with suspicious.
Elvis Presley dans Pop 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 sur France Inter avec Suspicious Minds. C'était en 69 sur l'album From Memphis to Vegas. Voilà. Posy Simmons, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai l'intention de faire de ma cave un musée. Qu'aimeriez-vous laisser ici en souvenir?
Oh là là, parce que j'ai pensé que c'était une cave pleine de vin.
Vous êtes déçu?
C'est permissable.
De mettre du vin?
Oui, où il y a du vin là,
ouais.
Parce que j'en vis, parce que le Brexit me rend absolument, je suis déprimée.
Donc j'en, vous avez envie de boire un coup.
Oui, un bon coup de pinard pour jeter derrière la cravate. Peut-être un Haut-Brion, s'il vous plaît.
Un Haut-Brion?
Oui.
Attendez, vous me demandez de vous servir du Haut-Brion ou vous me laissez du Haut-Brion dans ma cave?
Je vous laisse.
Oh.
De 63.
Ouh. Oh là là, c'est un magnifique cadeau.
Il y a encore un cadeau que vous ne partagerez pas.
Pas l'habitude de ce genre de choses. Ah ben non, ça, je me la garde, celle-là. Merci, merci infiniment, Percy Simmons. Cassandra Dark, votre nouvelle BD est éditée chez De Noël Graphique, en même temps que sort So British, l'art de Posy Simmons. C'est un bouquin qui retrace votre carrière et tout votre travail depuis les premiers dessins. Les tout premiers. Merci Loïc, à bientôt et un petit bisou bien sûr. Merci à l'équipe de Pop Pop Pop, Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique Paul Percheron, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Simon Restat, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka, Kélian Yousfi, notre stagiaire, et FDR, notre traductrice. Demain dans Pop Pop Pop.
Michael Connelly. Mais avant-demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0, un Yeuve ou une Yeuvesse aussi hein, à la pointe, suivez-nous, plutôt comme disent ceux qui font des tutos recettes de jelly anglaise sur YouTube. Notre podcast. Et suivez-nous sur les internets, comme disent les millennials. 3615 pop-pop-pop sur Instagram et Twitter.
C'est périssable la jelly, non?